Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
La science CQFD, Natacha Triou.
Joëlle Pinault est une pionnière et une référence dans le monde de l'intelligence artificielle. La Canadienne était de passage en France, nous lui avons rendu visite. C'est l'une des scientifiques les plus influentes en matière d'IA. Depuis 2023, Joëlle Pinault est la vice-présidente des laboratoires FAIR pour Facebook Artificial Intelligence Research. Elle dirige donc la recherche du groupe Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, numéro un mondial des réseaux sociaux. En ce moment, quelles sont les pistes de recherche à l'état d'exploration ? Pour répondre à cette question, la spécialiste du deep learning, de l'apprentissage par renforcement, nous a ouvert les portes du laboratoire FAIR. Joëlle Pinault, mettre les points sur les IA. Nous sommes reçus au siège de Meta, au cœur de Paris. Son laboratoire est considéré comme l'un des meilleurs au monde pour la recherche en intelligence artificielle. C'est un décor futuriste, tout de blanc immaculé, très sécurisé. Dans les couloirs, on entend surtout parler anglais. Dans les espaces collectifs, on y croise des baby-foot, beaucoup de baby-foot, mais aussi des jeux d'échecs, des jeux de go. En attendant de retrouver notre invité, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, sur Twitter, pour notre live tweet qui commence tout de suite sur notre fil La Science CQFD. Quel avenir scientifique pour Meta ? Quelles sont les limites du deep learning ? Et comment Joëlle Pinault compte-t-elle les dépasser ? Nous serons ensemble une heure pour répondre à ces questions. Les salles de réunion portent le nom de films populaires. Il y a le bureau Astérix et Obélix. Nous, nous sommes reçus dans la salle « Le Père Noël est une ordure ».
Bonjour.
Natacha.
Natacha, ça me fait plaisir, Joëlle. Bonjour.
Joëlle Pinault, je vous présente bien comme vice-présidente du laboratoire FAIR et professeure à l'université McGill, c'est ça ?
Oui.
Parfait. Alors, on va commencer l'émission avec une lecture. C'est une lecture d'une conférence d'Alan Turing qui s'intitule « Les ordinateurs numériques peuvent-ils penser ?» J'ai lu dans une interview que votre personnage historique préféré, c'était lui, c'était Alan Turing. 1951. Texte de la dernière conférence d'Alan Turing.
Can digital computers think?
Les ordinateurs numériques peuvent-ils penser ? Les ordinateurs numériques ont souvent été décrits comme des cerveaux mécaniques. La plupart des scientifiques considèrent probablement cette description comme un simple coup de pub, mais certains ne sont pas de cet avis. Un mathématicien m'a exprimé le point de vue opposé, avec une certaine force dans les mots. On dit souvent que ces machines ne sont pas des cerveaux, mais vous et moi savons qu'elles le sont. Dans cet exposé, j'essaierai d'expliquer les idées qui sous-tendent les différents points de vue possibles, même si ce n'est pas de manière tout à fait impartiale. J'accorderai la plus grande attention au point de vue que je défends moi-même, à savoir qu'il n'est pas tout à fait déraisonnable de décrire les ordinateurs numériques comme des cerveaux. Un point de vue différent a déjà été présenté par le professeur Hartree. Tout d'abord, nous pouvons considérer le point de vue naïf de l'homme de la rue. Il a des récits étonnants sur ce que ces machines peuvent faire. La plupart d'entre elles impliquent apparemment des exploits intellectuels dont il serait tout à fait incapable. Il ne peut l'expliquer qu'en supposant que la machine est une sorte de cerveau, qu'il peut préférer simplement ne pas croire ce qu'il a entendu. La majorité des scientifiques méprisent cette attitude presque superstitieuse. Ils connaissent les principes sur lesquels les machines sont construites et la manière dont elles sont utilisées.
C'est un personnage super important, autant de l'informatique en général que de l'intelligence artificielle, personnage historique, et puis... Je pense que c'est difficile de se projeter à son époque. Là, on n'avait pas du tout même les ordinateurs, les machines sur lesquelles et déjà ils réfléchissaient sur comment on pourrait avoir des mesures d'intelligence, le test de Turing, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est assez inspirant comme modèle.
Je me demandais, vous, dans votre parcours, comment vous avez suivi la révolution de l'intelligence artificielle plus jeune ? Est-ce que c'est quelque chose que vous suiviez avec appétit ?
Je dirais que je suis tombée dedans par curiosité. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'intelligence artificielle. On n'en parlait pas beaucoup. C'était un domaine de recherche parmi plusieurs. C'était une discipline de l'informatique parmi plusieurs. Moi, j'y suis arrivée par le biais de la robotique. Donc, je me suis premièrement intéressée à construire des robots. On avait un robot avec six pattes qu'il fallait contrôler. J'étais responsable du système de sonore qui était supposé détecter les obstacles. C'était pendant mes études universitaires à l'Université de Waterloo. Et puis après ça, évidemment, une fois qu'on a les données qui rentraient au compte-gouttes avec le sonore, il fallait les filtrer, il fallait aller extraire l'information sur l'endroit où étaient les obstacles, ce qui m'a amené à faire, évidemment, de la cartographie, localisation, planification, tous ces beaux sujets-là. Là. Puis donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatisé pendant mes études de doctorat. Mais c'était pas l'effervescence qu'on voit aujourd'hui là. C'était un petit labo incognito. On y allait vraiment par curiosité intellectuelle et puis désir du défi.
Ce qui vous intéressait le plus finalement, c'était pas tant les machines que le code.
À choisir entre les machines physiques et puis le code, définitivement le code me plaisait plus. Il y a un aspect de résolution de problèmes de mathématiques qui est super intéressant. Il y a une élégance dans le code d'être capable d'exprimer des idées, mais de les exprimer de façon formelle et puis d'avoir des propriétés qu'on peut vérifier. Tandis que les machines, c'est plus compliqué. Il faut y aller à l'intuition, ça brise. Ouais, donc définitivement, c'est là où je me suis retrouvée plus intéressée.
Petit retour en arrière, Joëlle Pinault, vous êtes née en 1974 à Ottawa, au Canada. Enfant, est-ce que vous étiez prédestinée à faire des sciences? Est-ce que vous avez déjà cette curiosité scientifique qui était là?
Je pense qu'il y avait définitivement une partie de moi qui était prédestinée à faire des mathématiques. J'avais une curiosité des mathématiques. Je me souviens de certains moments précis d'avoir compris des nouveaux concepts. Le concept des bases, entre autres, là, qu'on puisse compter en base 2, base 4, tout ça, là. Donc, oui, les mathématiques, mais en même temps, j'étais dans un environnement où est-ce qu'il y avait pas de scientifiques, il n'y avait pas d'ingénieurs. Ma famille, parents, amis, ils sont beaucoup plus dans le monde de l'éducation, dans le monde de la musique, fonctionnaires. Donc, j'étais pas prédisposée nécessairement par l'environnement, mais la curiosité des mathématiques était là. J'ai rapidement fait des concours de mathématiques, ainsi de suite. Donc, j'ai eu quand même des belles occasions à travers mon cursus scolaire.
J'ai vu que, Paris, vous aviez joué très tôt du violon. Pour vous aussi, la musique et les mathématiques, ce sont des disciplines sœurs?
Oui, j'ai joué de l'alto, qui est un peu le cousin, là, un peu plus grand, un peu plus grave du violon. Je joue encore de l'alto. Et puis, ça a été beaucoup l'activité de mes premières années, là, jusqu'à mes 18 ans. La musique, l'apprentissage, l'alto, le piano, l'orchestre, la musique de chambre, la théorie, tout ça, ça a occupé énormément d'heures. C'est difficile de dire où est le parallèle. On dit souvent qu'il y a un parallèle à faire entre la musique et puis les mathématiques. Certainement au niveau de la discipline, il y a quelque chose là. Mais la musique est un langage. Et puis, il faut comprendre, il faut s'approprier les bases de ce langage-là. Et puis, plus on maîtrise les bases, plus on a accès à un autre niveau d'interprétation dans le cas de la musique. Mais les mathématiques sont un petit peu comme ça. On commence évidemment avec les bases, mais plus on a accès à des concepts de plus en plus abstraits, plus on peut réfléchir à des idées complexes. Donc, il y a quelque chose là aussi. Après ça, il faudra demander à des chercheurs de nous expliquer là, plus en détail le parallèle.
En tout cas, sur ce langage mathématique, donc vous êtes donc allé à l'Université de Waterloo pour étudier la robotique. Vous êtes parti en doctorat robotique dans une des grandes écoles de génie américaine, la Carnegie Mellon University à Pittsburgh. Vous vous êtes spécialisé dans l'une des sous-branches de l'IA qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Avant de rentrer dans le détail, peut-être qu'on peut rappeler en quoi ça consiste.
Oui, donc c'est une des branches de l'apprentissage automatisé, donc qui permet aux machines d'apprendre à travers des données. La particularité de l'apprentissage par renforcement, c'est que c'est un mécanisme d'apprentissage où l'algorithme, ou la machine, le robot, l'algorithme doit prendre des décisions qui ont des conséquences. Donc, c'est pas juste de faire une prédiction. La plupart des algorithmes plus classiques d'apprentissage supervisé, l'algorithme fait une prédiction, puis on voit si la prédiction est bonne ou non. Mais dans l'apprentissage par renforcement, on prend une décision, on applique l'action et puis donc le but, c'est d'optimiser les séquences d'action. Donc, ça nous permet de faire des tâches plus compliquées, des tâches qui s'échelonnent sur le temps. C'est des techniques aussi qui combinent apprentissage et planification. Donc, il y a un degré de difficulté différent. Dans l'apprentissage, souvent, ce qui est difficile, c'est de généraliser. Donc, on voit quelques exemples, mais on veut être capable de faire des prédictions sur d'autres exemples qui sont semblables, mais pas exactement les mêmes. Donc, cette notion de généraliser. Dans la planification, le défi, c'est un peu l'arbre de choix. Donc, quand on imagine un système qui veut jouer aux échecs ou autre jeu, on a une position, mais il y a plusieurs actions qu'on peut prendre qui, après ça, ouvrent la porte à d'autres actions. Donc, il y a un arbre de choix qui se multiplie. Donc, en apprentissage par renforcement, il faut qu'on gère et la généralisation et la complexité de la planification. Donc, il y a de quoi nous garder occupés pendant plusieurs années.
On peut dire, pour résumer, que vous construisez des modèles mathématiques pour encadrer la prise de décision des algorithmes et des robots?
Oui. Oui, excellent. Oui, j'ai rien à rajouter.
Mais là, je rentre un peu dans le détail, mais j'aime bien poser la question des chercheurs qu'on rencontre, la question de la thèse. Thèse de doctorat en 2004 s'intitule « Planification réalisable dans l'incertitude, exploiter la structure ». Là aussi, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le problème qu'aborde votre thèse?
Je suis contente que vous me le rappeliez. J'avais peur que vous me demandiez quel était le titre de ma thèse. Et puis là, je me souviens du sujet, mais le titre comme tel... Oui, en fait, la question plus précise que dans ma thèse, c'était donc à partir de cette idée d'apprentissage par renforcement, on veut planifier, on veut apprendre, généraliser. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans des domaines où est-ce qu'il y a beaucoup d'incertitudes? Donc, notre agent, un robot par exemple, prend une action et puis il y a différents résultats possibles. Donc, il y a une composante d'aléatoire dans le résultat de l'action. Et puis, quand notre agent, notre robot, a seulement une vision partielle de l'information. Donc, il n'y a pas une information qu'on dit parfaite, il y a une information limitée. Donc, l'information est limitée et les actions ont des effets aléatoires. Ça complique beaucoup les choses. Bon, il faut se reprojeter. Là, j'ai fini ma thèse en 2004. Donc, c'était quand même quelques années avant la montée des modèles de deep learning, l'apprentissage profond, les modèles de réseaux de neurones. Ils existaient, mais ils n'étaient pas nécessairement ce qui était à la fine pointe. On était beaucoup plus dans des modèles probabilistes. Donc, on exprimait cette incertitude-là avec des probabilités. Il fallait apprendre les distributions de probabilités et puis il fallait choisir des actions sur la base d'une distribution de probabilités, d'où cette notion-là d'incertitude. Donc, il y a toute une part de la thèse qui était plus le développement d'algorithmes et puis l'analyse formelle, théorique de ces algorithmes-là. Et puis, j'avais une composante en robotique parce que c'était un docteur en robotique. Où est-ce qu'on a construit, bâti en équipe évidemment, un robot qui était un assistant infirmier qu'on déployait dans des foyers de personnes âgées, donc qui accompagnait ces personnes-là, qui leur donnait de l'information, une interaction sociale. Puis on est allé plusieurs fois avec notre robot qu'on avait construit dans les milieux de vie de personnes âgées pour ramasser des données, améliorer le modèle. Donc tout ce processus-là là, de la théorie à la modélisation, à l'application et puis la collecte de données en milieu naturel, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre déjà dans mes études de doctorat. Et puis donc, c'est un modèle qui me plaît beaucoup de passer du modèle théorique à la pratique et au déploiement. Et puis, c'est quelque chose que je retrouve maintenant chez Meta.
Oui, puisqu'on voit que très tôt, l'application médicale de l'intelligence artificielle, c'est là très tôt dans votre parcours et dans vos préoccupations.
Absolument, oui.
Et qu'on va retrouver par la suite, en effet, dans le laboratoire FAIR. Alors, petit aparté à votre thèse qui est encore à jour l'un des articles les plus cités dans le domaine de l'intelligence artificielle. À la fin de vos études, donc, vous accédez à une chaire de professeur à l'Université McGill. En 2016, vous avez fait toute votre carrière dans le milieu académique. Facebook vous propose le poste de directrice de l'antenne FAIR à Montréal dès son inauguration en 2017. Comment vous avez appréhendé ce passage dans le milieu industriel?
Je dirais un peu comme chacune de mes transitions au niveau professionnel, toujours avec la curiosité. Donc, ce qui m'a amené en fait à passer du milieu académique à travailler chez Meta, Facebook à cette époque, de monter une équipe faire, c'est vraiment la curiosité de voir comment on pouvait faire de la recherche de haut niveau à la fine pointe avec les meilleurs chercheurs, avec les ressources. donc dans un milieu industriel. À ce moment-là, j'avais passé peut-être une décennie là, à McGill. J'avais compris un peu comment enseigner, la labo de recherche académique, tout ça. Donc, c'est vraiment cette curiosité-là de voir. Il y avait tellement des résultats intéressants qui se faisaient, entre autres, chez FAIR. Déjà, j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour les travaux de certains des chercheurs chez FAIR, déjà comme Jason Weston, Antoine Bord, qui a longtemps dirigé notre équipe à Paris, Ilan Bourreau et autres, qui étaient des chercheurs qui travaillaient dans le domaine des agents de conversation, qui étaient aussi un de mes sujets de recherche à l'université. Donc, je me suis dit, plutôt que compétitionner avec eux, pourquoi pas travailler ensemble puis voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est ça beaucoup qui m'a amené à rejoindre l'équipe de FAIR.
Les questions de recherche sont pas forcément traitées de la même façon dans le milieu académique que dans le milieu industriel?
En effet, oui, c'est très complémentaire. Je pense que dans le milieu industriel, on a le privilège d'avoir accès à beaucoup de ressources. On pense aux ressources de calcul, les ordinateurs, les données. Et puis, on a des équipes de chercheurs seniors qui travaillent ensemble. En milieu académique, on a souvent un chercheur senior, des fois deux collaborateurs. Toute une équipe de jeunes à former, puis c'est merveilleux. C'est un travail que j'adore. Mais en milieu industriel, on a des équipes plus seniors, on a aussi plusieurs expertises, on a des gens qui sont plus formés dans les aspects scientifiques, des gens qui viennent plus d'un profil d'ingénieur, qui sont capables de prototyper nos idées très, très rapidement, de développer aussi les modèles à grande échelle. Donc, c'est un petit peu des engins différents, là. Des fois, on a des utilités différentes pour différents modes de recherche.
Est-ce que avoir un pied dans Facebook ou dans Meta et un autre pied dans le monde académique, est-ce que ça nourrit aussi votre façon de penser la recherche fondamentale?
Je pense que oui. Oui, absolument. Et puis, je dirais, bon, pendant un bon bout de temps, j'avais vraiment un pied dans chacun, là, partager mon temps de façon assez égale. Je dirais, depuis 3 ans, je suis vraiment beaucoup plus les deux pieds chez Meta. Puis, j'ai un petit orteil dans le monde universitaire. J'ai quelques étudiants gradués qui me restent, avec qui je continue de travailler, puis un petit peu de temps à l'université, mais c'est vraiment les deux pieds chez Meta. Mais ça nous porte beaucoup à réfléchir quel problème on doit choisir. En recherche, la chose probablement la plus difficile, c'est de choisir le bon problème au bon moment puis le traiter de la bonne façon. Cette question-là d'identifier la bonne question de recherche, c'est assez difficile. Puis en fait, avec mes étudiants au doctorat, souvent les deux premières années, c'est moi qui suggère les questions de recherche ou au moins qui en propose quelques-unes, puis ils choisissent. Mais vers la fin du doctorat, il faut qu'ils soient capables de choisir leurs propres questions de recherche. S'ils ne sont pas capables de faire ça, j'ai pas fait ma job. Et eux ont du travail à faire. Mais donc, ça nous permet de réfléchir quelles questions on est plus apte à résoudre quand on a un labo académique. Et puis, il y a des questions qui sont plus traitable dans un labo académique. Entre autres, pendant plusieurs années, j'ai fait de la recherche à l'intersection de l'IA et puis du domaine de la santé. Donc, comment on développe des techniques pour personnaliser les traitements pour des gens qui souffrent d'épilepsie, de cancer, de maladies respiratoires et autres. C'est évidemment beaucoup plus facile de faire ça au milieu académique par rapport à la confidentialité des données, par rapport à s'assurer qu'on a vraiment une approche qui est axée sur le bien-être des patients. Une compagnie comme Meta a un devoir de réserve quand on a tellement d'informations sur la vie sociale des gens de ne pas aussi mêler à ça leurs données médicales. Donc, il faut choisir un petit peu quelle question de recherche on fait avec quel groupe de recherche.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
Sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec Joël Pinault, qui dirige l'activité de recherche en intelligence artificielle chez Meta et qui nous a accordé cet entretien dans le laboratoire FAIR à Paris. Pour resituer fin 2013, Yann Lequin crée donc un programme de recherche spécialisé dans l'intelligence artificielle pour Facebook, le FAIR, pour Facebook Artificial Intelligence Research, le premier. C'est à Menlo Park en Californie, puis New York, puis Paris, puis Montréal. Pourquoi Meta s'est-il doté d'un laboratoire de recherche fondamentale en IA?
Ouais, et je repense à ça. Je pense qu'il y a eu des résultats au niveau de la recherche autour des années 2012 à peu près qui démontraient pour la première fois vraiment la capacité des algorithmes. On en a parlé un petit peu d'apprentissage profond permettait une meilleure reconnaissance des objets dans les images. Ce résultat-là était assez inspirant, puis les choses ont bougé assez rapidement. Donc, je dirais le premier intérêt chez Meta, c'était, il y avait quelques ingénieurs qui suivaient ces travaux-là, qui ont vu les possibilités, qui ont commencé à construire certains modèles, modèles d'image à l'époque, et puis qui ont convaincu le leadership de la compagnie, Mark Zuckerberg lui-même, qu'il fallait investir rapidement, qu'il fallait aller chercher le talent. Ça, c'était même avant l'arrivée de Yann, là. Mais j'imagine que Mark, avec ses conseillers, a fait une courte liste des meilleurs candidats pour partir en labo de recherche. Yann avait déjà une bonne carrière derrière lui, mais et puis Yann était quelqu'un qui avait travaillé dans le milieu industriel. Il sortait pas juste d'un labo académique, qui avait déjà démontré cette capacité de faire le pont entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc, je pense que c'était la convergence des résultats probants à travers le milieu de la recherche et puis Yann qui a mis beaucoup de son expérience, de son point de vue sur la façon d'établir la culture du laboratoire, cette culture de recherche ouverte qu'on a déjà en 2013. C'était un petit peu, disons que ça détonnait par rapport aux approches des autres laboratoires.
Yann Lequin, en 2023, sur France Inter.
La première chose, c'est peut-être on peut se poser la question, est-ce qu'un jour il y aura des machines qui sont aussi intelligentes que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents? Et la réponse à ça est absolument oui, il n'y a aucun doute là-dessus. On en est encore assez loin. Malgré les progrès récents et les systèmes de dialogue comme ChatGPT, etc., qui sont devenus disponibles dans le public, on a l'impression que ces systèmes sont intelligents, mais en fait, ils n'ont pas le type d'intelligence qu'on constate chez les humains. Donc, ils sont très capables de manipuler la langue et ça nous donne l'impression qu'ils sont intelligents. Mais en fait, bon, c'est une intelligence très superficielle, je dirais.
Mais c'est vous dites utile. qu'à terme, la machine sera supérieurement intelligente à l'intelligence humaine.
Oui, ça ne fait aucun doute. Alors maintenant, la question est de savoir quelles vont être les conséquences là-dessus sur la société, etc. Est-ce que c'est potentiellement bénéfique? La réponse est oui. Est-ce que c'est potentiellement dangereux? Probablement. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur? Non. En sens que l'intelligence artificielle est un moyen d'amplifier l'intelligence humaine, de même que les machines sont un moyen d'amplifier la force physique, si vous voulez. Et il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut le voir au contraire comme une certaine nouvelle renaissance, peut-être un nouveau départ pour possiblement pour l'humanité, parce que le progrès de l'humanité est limité par l'intelligence de l'humain.
J'ai demandé justement comment Yann Lequin, qui est expert et pionnier du machine learning, comment vous regardez sa méthode, son approche, sa vision de l'IA? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent vous aussi dans votre façon de travailler?
Oui, beaucoup. Je dirais que Yann et moi avons des approches très très complémentaires. Puis avec le temps, on a développé, je crois, une façon de travailler ensemble qui porte fruit. D'une part, Yann a toujours un peu la vision à 10 ans plutôt que la vision à 2-3 ans. Donc, dernièrement, il travaille beaucoup sur des modèles d'apprentissage qui utilisent une architecture assez différente, pour ne pas dire de différente de façon assez radicale, par rapport aux méthodes qui sont utilisées présentement. Donc, si on regarde les modèles GPT, Llama et autres, qui sont vraiment basés sur des modèles de transformeurs, là, au niveau de l'architecture, de comment l'information est représentée, Yann, lui, prend une approche qui est basée sur les modèles JEPA, qui ont une autre structure sur l'information. En tout cas, si on se fie aux dernières années, souvent, Yann a un très bon instinct pour ces choses-là. Donc, évidemment, on construit un programme de recherche autour de ses idées. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillent avec lui. Mais moi, en tant que directrice du labo, j'ai aussi une responsabilité de développer des modèles qui vont être efficaces l'année prochaine, l'année d'après, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de mon rôle, c'est de mettre une certaine partie de nos efforts sur les hypothèses à long terme, celles de Yann, mais celles de certains de nos autres chercheurs seniors, et puis de s'assurer qu'on a tout un portfolio de recherche qui va produire des résultats. Le modèle Llama, le premier modèle Llama, en est un qui a été développé à l'intérieur de FAIR, pour commencer, puis après ça, les équipes produits ont pris le relais. Mais ce n'était pas nécessairement en ligne avec la vision de Yann. Et puis, Yann est très, très inclusif, c'est-à-dire que lui a des convictions très profondes et sur sa propre vision, mais il laisse les gens aussi poursuivre leur vision. C'est pas dans sa nature de dicter à tout le monde de faire la même chose. Là, il sait à quel point la recherche bénéficie d'une vaste exploration.
Vous évoquez Llama. Donc Llama, c'est le grand modèle linguistique open source qui repose sur, je crois, 65 milliards de paramètres qui est sorti donc en effet des labos de FAIR. C'est pas accessible en libre accès par tout un chacun, contrairement à ChatGPT. Mais comment se distingue-t-il de ChatGPT, d'OpenIA ou encore de Bard, de Google?
Oui, mais Llama, c'est un modèle, c'est pas un produit en soi. Donc, si on compare ChatGPT, c'est vraiment un produit. Les gens peuvent aller sur une interface et puis l'utiliser comme un produit. Nous, chez Meta, Llama, c'est notre modèle de recherche. Après ça, ce modèle-là, Llama, va être distribué à travers plusieurs de nos produits en Amérique du Nord. Déjà, quand on est sur la plateforme Facebook, Instagram, WhatsApp, on peut interagir avec le modèle Llama à travers l'interface de Meta AI. On peut poser des questions, il nous fait des suggestions, on peut avoir toute une conversation. Donc, l'équivalent produit, c'est plus cet assistant Meta AI qu'on est en train de développer, alors que Llama est plus le modèle de base, là. C'est la matière. C'est un modèle qu'on a partagé en open source pour permettre à plusieurs autres de construire sur ce modèle-là puis nous aider à développer ça rapidement.
Oui, c'est surtout pour les chercheurs.
Les chercheurs, oui, mais beaucoup, beaucoup, les innovateurs, les startups. C'est surprenant à quel point même les gouvernements à l'interne, dans leurs équipes de recherche et développement, sont en train de construire. J'ai eu vent d'un projet récemment avec le gouvernement québécois qui est en train de construire un assistant pour répondre aux questions des gens. Évidemment, ils n'ont pas le personnel pour répondre à toutes les questions, donc ils construisent un assistant. Plutôt qu'avoir juste une page de questions-réponses statique sur un site web, là, ça permet d'être beaucoup plus dynamique, plus personnalisé. Ils utilisent le modèle Llama. C'est pas les seuls. Il y a des gens dans le gouvernement américain aussi qui utilisent le modèle Llama comme étant un peu le moteur. Ils n'ont pas nécessairement l'expertise de développer les modèles d'eux-mêmes. Et puis, ils n'ont pas nécessairement, en tout cas, ils ont plein d'autres choses sur lesquelles dépenser leur argent plutôt que les ordinateurs de calcul. Donc oui, il y a plein d'organismes, que ça soit des startups, que ça soit des gouvernements, beaucoup d'organismes aussi à but non lucratif qui aussi construisent sur ces modèles-là. Et puis beaucoup de compagnies qui sont dans l'hémisphère sud, qui ont aussi moins de ressources de calcul pour construire leur propre modèle, qui prennent le modèle Llama et puis qui après font une phase d'adaptation pour mieux répondre à aux besoins qu'ils voient dans leur communauté.
Ce qu'on entend aussi, c'est que toutes les solutions d'IA que vous cherchez à développer chez FAIR, en l'occurrence, pour vous, c'est aussi important que ce soit poussé dans le domaine public. C'est ce qu'on appelle le mouvement Open Science.
Oui, on apprend beaucoup plus vite quand on apprend tous ensemble, plutôt que s'imaginer. J'ai des chercheurs merveilleux, fantastiques, les meilleurs, mais c'est quand même seulement quelques centaines de personnes. Après ça, on partage le modèle Llama. On parle de 160 millions de downloads dans la première année. On parle de 16 000 modèles dérivés. Donc, des gens qui ont pris notre modèle de base, qui l'ont adapté, qui ont fait des nouvelles choses avec cette puissance-là là, d'innovation par la communauté, c'est incroyable. Donc, c'est ça l'hypothèse.
On entendait, vous parliez de l'importance de la dimension médicale de la tech. Autre cheval de bataille pour vous, c'est la dimension éthique de l'intelligence artificielle. Bon, aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet de coulisses, c'est arrivé sur le devant de la scène. On sait que dans les bases de données incorporées aux différents modèles, notamment dans les IA génératives d'images, on sait qu'il y a un biais racial, sexiste qui est présent. Comment pallier ça? Quels pourraient être les principes cardinaux d'une IA éthique?
Je suis pas sûre que je suis prête à me prononcer sur les principes cardinaux, mais ceci dit, on est en train de développer notre réflexion par rapport à ça. Je fais une petite aparté, mais j'ai la chance, le privilège de vivre à Montréal, qui est une ville hyper diverse, une ville de créateurs, une ville d'artistes. Donc, au jour le jour, quand je côtoie les gens, je suis pas prise dans une bulle de la tech, je suis prise dans une communauté qui est très diverse au niveau des intérêts, diverse au niveau ethnique, diverse au niveau de la langue. On parle le français, l'anglais qui se côtoient partout, tous les jours. Donc, Évidemment, ça m'amène à peut-être réfléchir de façon un petit peu différente sur l'impact de l'IA sur nos sociétés. On est vraiment à la phase d'exploration présentement. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses à apprendre sur comment bien faire les choses. C'est pour ça que j'hésite un peu à me prononcer sur des principes cardinaux, parce que plus on développe les modèles, plus on comprend quels peuvent être les points positifs et puis les points négatifs de ces modèles-là. À travers notre programme de open source, on a développé une certaine taxonomie de risque à l'interne qu'on utilise. Évidemment, on s'inspire des travaux de gens partout, que ce soit des chercheurs qui ont publié sur le domaine, que ce soit des instituts ou d'autres groupements. Donc, on a une taxonomie des risques possibles, certains de ces risques étant les biais, certains de ces risques étant la création de fausses informations, la capacité de produire du contenu haineux. Et puis, pour chacun de ces risques, on développe des outils de mesure. Donc, c'est une chose de dire qu'on veut qu'on ait des modèles qui ne causent pas d'inéquité sociale par rapport au genre, par rapport aux différentes communautés culturelles. Mais après ça, il faut se doter des outils pour vérifier ce qui se passe. Et puis, c'est pas simple. C'est pas à base de l'anecdote qu'on développe les meilleurs modèles. On peut créer toutes sortes d'anecdotes. On a juste à suivre le cours des médias sociaux. Mais en réalité, il faut qu'on mesure ça de façon assez précise. Donc, on développe des bases de données. On développe des outils de mesure. On essaie de voir où est-ce qu'on va mettre la barre par rapport à ça. Et puis, on a beaucoup de conversations avec des partenaires à l'externe pour essayer de voir comment on fait ça. Dans certains cas, il y a des lois en vigueur. Donc, entre autres, que ça soit l'utilisation de comment on préserve les données privées de certains individus. Donc, dans le cas où est-ce qu'il y a des lois, évidemment, il faut qu'on s'assure de se conformer à ces lois-là. Mais il y a beaucoup de questions sur lesquelles il n'y a présentement pas de loi. Il y a un peu un flou. Il y a dans certains cas des lois qui vont se préciser, entre autres les notions de copyright. Je pense on va comprendre de façon plus claire où est-ce qu'on se positionne là-dessus. C'est pas donné que tous les pays vont se positionner de la même façon. Donc, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on ne sort pas nécessairement toujours nos modèles en même temps partout à travers le monde, parce qu'il faut qu'on voit quels vont être les choix des différents pays qui préservent leur indépendance, leur autonomie là-dessus. Et puis après ça, il y a des questions qui sont plus une question qui ne sera pas une question légale, qui va être une question plus culturelle, sociale. Donc, est-ce qu'on veut des modèles qui sont très, très polis, c'est-à-dire qui ne vont pas vers des sujets plus sensibles, ou on veut des modèles qui, au contraire, sont capables de discourir de façon très ouverte sur des sujets très, très controversés. Il y a différents points de vue là-dessus, là, donc on essaie de naviguer ça.
Les GAFA se positionnent à la pointe de la recherche fondamentale, et donc Facebook, Microsoft, Google. Cette omniprésence des big tech, est-ce que ça peut être dangereux aussi d'un point de vue de l'éthique?
Je pense que toujours quand on a un petit nombre d'acteurs, que ça soit les GAFA ou que ça soit d'autres, petit nombre d'acteurs qui prend des décisions qui ont des conséquences pour un grand nombre de personnes qui ne sont pas représentées, il y a des dérives qui sont possibles. Donc, dans ce cas-ci, oui, on parle des GAFA qui sont en train de développer ces modèles-là, qui le font avec un certain modèle d'affaires en tête. Je pense que pour moi, c'est intéressant d'avoir une compagnie comme Meta qui a la volonté de le faire de façon différente, donc avec une approche beaucoup plus ouverte. Je trouve ça important dans l'écosystème. J'espère que, et puis il y a beaucoup d'autres acteurs de l'écosystème qui reconnaissent la valeur de ça. Mais donc, tout ça pour dire, je pense que même à l'intérieur des GAFA, il n'y a pas une seule façon de faire. Je pense qu'il y a différentes façons de faire qui sont possibles. Et puis, je suis très contente du fait que Meta continue d'avoir cette approche-là beaucoup plus ouverte. Je pense que c'est important.
Social network. bruit de message, musique concrète. Aller, retour, rien ne s'arrête.
Social Network, de catastrophe sur France Culture, car nous parlons de réseaux sociaux, d'algorithmes et d'intelligence artificielle, avec une pionnière dans le domaine, Joëlle Pinault, professeure à l'université McGill, vice-présidente du laboratoire FAIR de Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook. Parmi les recherches développées chez Meta, on étudie les similarités entre le fonctionnement cérébral et celui des IA, qu'on entraîne par des méthodes dites auto-supervisées. Pour le reportage du jour, vous avez rencontré un chercheur qui développe de telles IA qui miment l'activité cérébrale pour gagner en performance. Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha. Une méthode, oui, qui apparaît comme un réel progrès par rapport aux méthodes d'apprentissage supervisées qui sont plus limitées et qui requièrent d'annoter laborieusement des masses de données que les machines peuvent parfois mal analyser. Pour dépasser cet écueil, l'équipe de Jean-Rémy King, chercheur en IA et neurosciences, s'inspire plutôt de la manière dont nos cerveaux fonctionnent naturellement pour raisonner et mémoriser. En termes de performance, ces algorithmes d'apprentissage auto-supervisés ont montré ainsi une plus grande efficacité dans la modélisation du langage et de la reconnaissance des images.
L'équipe avec laquelle je travaille se consacre à comparer deux systèmes intelligents, d'un côté le cerveau humain et de l'autre les algorithmes qui sont développés en intelligence artificielle, pour essayer de comprendre si on peut trouver des similarités ou des différences entre ces deux systèmes. Et ce que l'on voit, c'est que dans des grandes modalités, donc la modalité visuelle, le traitement des images, ou la modalité auditive, ou le traitement du langage, on observe des représentations qui sont similaires dans les algorithmes et dans le cerveau. Donc très concrètement, comment on fait ça? On regarde les activations cérébrales de participants lorsqu'ils voient des images ou lorsqu'ils lisent ou écoutent du texte, et on compare ces activations cérébrales aux activations d'algorithmes à qui on présente finalement les mêmes stimuli.
C'est comme faire du décodage neuronal pour arriver à comprendre comment le cerveau traite l'information pour ensuite le comparer avec comment opère la machine pour faire le même traitement.
Absolument. Donc le décodage cérébral, c'est un des objectifs dans le domaine de la neuroimagerie, qui consiste à reconstruire le stimulus directement à partir des activations cérébrales. Donc, par exemple, dans le cas du décodage d'images, un des objectifs, c'est de reconstruire une image plausible étant donné l'activation cérébrale élicitée par cette image. Et donc, c'est effectivement un des objectifs qu'on essaye d'atteindre. Et pour atteindre cet objectif, on voit que les algorithmes d'intelligence artificielle sont extrêmement utiles, mais non pas uniquement comme outils de traitement des données d'activité cérébrale, mais vraiment comme modèle du traitement de l'information du cerveau. Alors, je peux vous montrer des travaux de recherche en cours. Donc, dans cette étude, qui a été réalisée par l'équipe, par Johan Benchetrip et Hubert Banville en premier auteur, les participants sont des personnes saines, sans troubles neurologiques, sont allés dans un laboratoire de neuroimagerie, et leur activité cérébrale était enregistrée pendant qu'ils regardaient passivement des images flashées à l'écran.
En IRMF
Alors, là, on appelle ça en magnéto-encéphalographie.
En MEG,
oui. C'est une autre technique qui permet de mesurer l'activité cérébrale et qui prend à peu près 1000 photos de l'activité cérébrale par seconde. Donc, c'est extrêmement bien résolu dans le temps. En revanche, chacune de ces photos est relativement floue. On a une faible résolution spatiale de l'activité cérébrale. Et donc, les participants regardent ces images les unes après les autres. Chaque image finalement reste à l'écran un peu plus d'une seconde et passe à l'image d'après. Et ce sont toutes des images naturelles. Et le but de cette étude, c'était de savoir s'il serait possible de reconstruire les images que les personnes voient directement à partir des signaux MEG, c'est-à-dire directement à partir de leur activité cérébrale enregistrée de manière non-invasive. Hein. C'est un scanner où on peut juste s'asseoir et il n'y a évidemment aucun danger de ce côté-là.
Alors, sur votre écran, justement, on peut voir les visuels qu'ont vu ces participants.
Oui, absolument. Donc là, c'est une animation où il y a deux images. À gauche, on voit l'image que les participants regardaient à un instant T. Et à droite, c'est l'image qu'on arrive à décoder directement à partir de l'activité cérébrale élicitée par chacune de ces images.
C'est à la fois impressionnant et un peu drôle aussi quand on voit les correspondances que donne la machine.
Absolument. Donc c'est à la fois très impressionnant et aussi très décevant, mais effectivement assez amusant.
Un cheval, on voit une antilope ou...
Voilà, donc on voit que notre décodeur, notre algorithme, finalement, se trompe la quasi-totalité du temps. L'image reconstruite n'est jamais complètement identique à l'image que les participants effectivement regardent dans le scanner. En revanche, ce qui est frappant, c'est que les images qui sont reconstruites partagent des propriétés, notamment des propriétés de haut niveau, des propriétés sémantiques extrêmement frappantes. Donc, par exemple, lorsque les participants regardent une image d'un panda, l'algorithme génère une image qui contient un ours dont la fourrure est noire et blanche.
Donc il parle de critères sémantiques.
Donc ça fait partie de la question qu'on essaie de comprendre finalement quels sont les attributs qu'on arrive à décoder. Mais ce qui est frappant, c'est que a priori, je suis pas spécialiste en zoologie, donc je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a probablement pas beaucoup d'espèces d'ours qui sont noires et blancs. Donc on sent que l'algorithme utilise différentes propriétés. Une propriété très haut niveau sur le type d'animal qui est présenté à un moment, et également des propriétés de bas niveau sur la couleur finalement de la fourrure de cet animal, et essaye de générer une chimère à partir de ces différentes propriétés, chimère plausible pour pouvoir générer cette image.
Et peut-être aussi des éléments de contexte de l'environnement qui peuvent être des éléments qui vont affûter sa stratégie.
Alors absolument, ça peut être une des stratégies de décodage. On n'a pas d'éléments qui suggèrent que c'est utilisé dans cette étude-là. En revanche, il y a tout un tas d'études en intelligence artificielle, donc complètement indépendamment des neurosciences, qui montrent que souvent, effectivement, les algorithmes d'intelligence artificielle utilisent des éléments de contexte pour, par exemple, faire de la catégorisation d'objets. Donc un des classiques, hein, c'est de montrer des objets hors contexte. Donc si on montre, par exemple, une maison à l'envers sur une plage, l'algorithme peut complètement se tromper sur la reconnaissance d'une maison parce qu'il va essayer d'utiliser des éléments de contexte pour faire son inférence. Donc ça fait partie des défis pour les algorithmes en vision artificielle, oui.
Oui, pour toujours sauver le sens de ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et justement, au niveau sonore, vous travaillez aussi sur des projets de reconnaissance sonore ?
Absolument. Donc, l'équipe est structurée en différentes modalités. Il y a des personnes et chercheurs qui travaillent sur la modalité visuelle, d'autres qui travaillent sur la modalité auditive, avec toujours cette même question, hein, c'est comment la sémantique, comment le sens se structure dans notre cerveau, et notamment comment on l'articule avec le langage, comment on passe de la pensée finalement à une séquence motrice qui va articuler cette pensée. Donc, dans une autre étude, donc par exemple celle-ci, qui a été menée par Alexandre Desfossés, qui était chercheur à faire jusqu'à l'année dernière. Les participants écoutent des podcasts, des histoires.
Toujours en MEG.
Toujours en magnétoencéphalographie. Et le but de cette étude, c'est d'essayer de reconstruire les mots qui sont perçus à chaque instant lors de cette écoute. On a une collaboration avec plusieurs partenaires, mais notamment un partenaire qui est ici à Paris, dans le sud de Paris, qui est le laboratoire Neurospin, qui est dirigé par...
Le grand...
Exactement, avec
IRM ISE. IRM de 11,7 Tesla.
Exactement, avec ISE, qui vient de montrer ses premières images anatomiques du cerveau, et on espère que très bientôt, on pourra faire la même chose avec des images fonctionnelles. Et donc, on a ce partenariat avec Neurospin, qui est dirigé par Stanislas Dehaene, et on travaille également en collaboration avec Christophe Pallier, pour essayer de voir si on peut utiliser leurs outils pour mieux comprendre les activations cérébrales élicitées lors de l'écoute de la parole ou lors de la lecture, et faire ces comparaisons avec des algorithmes, non seulement pour faire du décodage d'activité cérébrale, mais aussi pour mieux comprendre finalement les mécanismes qui permettent de représenter le sens des mots dans le cerveau.
Et je voudrais aussi vous faire réagir sur ça. Joël Pinault, hein, quel est l'objectif de ces travaux qui visent à comprendre puis simuler certains mécanismes cognitifs humains tels que le langage? Comment ça nourrit les recherches au sein de FAIR?
C'est vraiment un de nos projets les plus intéressants. Je pense qu'il y a plusieurs pistes à suivre à ce niveau-là. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle s'inspire de l'intelligence humaine. À certains niveaux, c'est notre meilleur modèle. Dans plusieurs cas, on s'en est inspiré de façon un peu abstraite. Les réseaux de neurones artificiels ont certaines choses en commun avec les neurones biologiques, mais ça reste assez abstrait. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener tout ça. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise source d'inspiration quand on fait de la recherche, en fait. Et puis, c'est très utile pour nous, dans notre laboratoire, d'avoir des chercheurs qui viennent de plusieurs disciplines, que ce soit la neuroscience, comme Jean-Rémy. On a des experts qui viennent de la linguistique, de l'éthique, des gens qui ont fait des études en physique, en mathématiques. D'avoir tout cet éventail d'expertise, ça nourrit nos recherches. D'une part, ça nous amène à poser des questions différentes, et puis d'autre part, ça nous donne aussi toutes sortes de nouveaux outils pour le faire.
Vous avez dit que les réseaux de neurones ont certaines choses en commun avec les vrais neurones, quoi, par exemple?
Ah ben c'est la notion que chaque neurone, en fait, est un tout petit engin de calcul. Donc, on prend un neurone biologique, ce neurone-là reçoit de l'information, puis il y a une réaction chimique à partir de laquelle on décide comment propager cette information-là. Au niveau d'un neurone artificiel, même chose, il y a de l'information qui rentre, que ça soit des pixels ou quelques bits d'information. Et puis, il y a une petite fonction de calcul qui se passe, et puis à partir de ça, il y a le résultat de cette équation-là. Mais la puissance vient du fait qu'on met en réseau des millions, des milliers, des milliards de neurones. Et puis donc, d'avoir des unités très, très simples d'informations qui puissent faire des calculs. Mais quand on met ça en réseau, après, on est capable d'apprendre des fonctions très, très complexes. Je pense que c'est assez fascinant ce que ça nous laisse faire au niveau de l'agilité à la même, en gros, la même architecture biologique ou en silicone nous permet de représenter des images, du texte, le contrôle moteur, tout ça, la polyvalence de ça, c'est assez fascinant. Après ça, le cerveau humain est capable de le faire de façon beaucoup plus efficace. Le nombre d'exemples présentés pour apprendre un concept, la rapidité d'apprentissage, l'efficacité énergétique du cerveau humain est fascinante. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à reproduire avec nos ordinateurs encore.
Donc, on peut améliorer ces algorithmes en y injectant des principes neuroscientifiques.
En tout cas, en s'en inspirant. Ouais.
C'est l'ambition de la recherche, en tout cas, qui se fait en ce moment dans les bureaux de fer et dans les labos.
Oui, c'est une des pistes de recherche qu'on est en train d'explorer.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
Vous écoutez France Culture et la voix de Joëlle Pinault, l'une des plus influentes chercheuses en matière d'intelligence artificielle, puisque c'est elle qui dirige l'activité de recherche en IA chez Meta. Selon elle, les plus gros changements dans ce domaine sont à venir. Selon vous, les grandes avancées de l'IA, ce vers quoi devrait tendre l'IA de demain, ce serait quoi, Joëlle Pinault?
Il y a un grand intérêt pour avoir des modèles qui ne sont pas seulement des modèles qui prédisent du langage ou qui produisent des images, mais d'avoir ce qu'on appelle vraiment des agents. Donc, des agents intelligents, c'est des modèles qui sont capables de prendre des décisions, de prendre des actions en notre nom. Donc, c'est-à-dire, mettons que je voulais planifier mon prochain voyage à Paris, ça me fait toujours plaisir de revenir vous visiter, planifier mon prochain voyage. En gros, que ça se fasse de façon automatisée à travers un agent d'intelligence artificielle. Je donne mes dates, je donne les endroits où je veux aller, mes préférences, ou peut-être que c'est déjà dans le système. Et puis après ça, l'agent se débrouille là pour organiser les choses. Donc, cette prise de décision-là et puis ces actions que les agents vont faire, ben c'est un gros défi. Il y a une complexité algorithmique à savoir comment on planifie. Puis c'est une des questions, vous avez parlé un petit peu des travaux pendant ma thèse, donc j'ai quand même une certaine intuition sur ce qui est difficile là-dedans. Puis je vois beaucoup de beaux défis. Les modèles qu'on a présentement, les modèles de langage, permettent de traiter l'information vraiment à un niveau très en surface. Pas nécessairement de comprendre l'information puis de manipuler à un niveau plus abstrait, plus logique. C'est certain que si on génère des actions comme on génère du langage présentement, là, on va avoir toutes sortes de dérives de ces modèles-là. Donc, autant du côté des algorithmes que du côté de la responsabilité, il va y avoir des nouveaux problèmes super intéressants. Puis même avant ça, la question de quels sont les jeux de données qu'on doit utiliser pour faire ça, ça va être super intéressant. Donc oui, de quoi nous garder occupés pendant plusieurs années.
Vous avez dit le mot intuition. Peut-être qu'un des enjeux futurs de l'intelligence artificielle serait peut-être ça, de comprendre l'intention humaine. Ça, ce serait une future percée?
Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour comprendre l'intuition. Et puis on le voit déjà avec nos algorithmes de recommandation. De plus en plus, les algorithmes de recommandation sont capables de nous trouver du contenu qui nous intéresse, mais souvent, ils sont un petit peu naïfs. Là. On manifeste un intérêt pour une paire de souliers, puis tout d'un coup, on voit des paires de souliers défiler pendant 3 semaines de suite. Donc, il manque un petit peu de nuance là-dessus. Et puis, je pense que cette idée de comprendre l'intention à un niveau plus riche par rapport au, on a parlé des agents, des actions, ça va être un gros défi. Déjà, entre personnes, d'un humain à l'autre, souvent, on a de la misère à comprendre les intentions de l'autre avec toute notre intelligence humaine et notre expérience. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que les machines qui sont beaucoup moins bien outillées pour le faire, de la difficulté, surtout au début.
C'est pour ça que c'est encore plus difficile, en effet, pour les machines de comprendre les incertitudes du comportement humain, de faire preuve de souplesse.
Oui, absolument.
Et quelles autres pistes de recherche, si vous pouvez en parler, qui est en ce moment à l'état d'exploration?
On a beaucoup de travaux qui portent à savoir comment on peut développer des modèles de façon beaucoup plus efficace. Donc, on a parlé des modèles qui n'arrêtent pas de grossir en taille. Je pense qu'un des gros enjeux, ça va être d'être beaucoup plus efficace sur comment on entraîne ces modèles-là. Donc, est-ce qu'il y a des techniques qu'on peut utiliser qui nous permettent, avec une fraction des données, une fraction des calculs, d'apprendre le même concept? Ça serait hyper intéressant. On a tout un projet qui porte aussi sur l'apprentissage de, pas nécessairement de prédire le langage, mais de prédire du code informatique. Donc, on a sorti cette année un modèle code Llama, qui est un peu un dérivé de Llama, mais vraiment adapté pour produire du code dans le langage machine. C'est un domaine super intéressant parce que avec le code, on peut résoudre presque tous les problèmes. Le code nous donne un langage universel pour résoudre des problèmes. Donc, si on est capable d'utiliser le code plutôt que juste le langage, mais on repense à comment développer des agents qui peuvent prendre des actions, mais on peut programmer ces agents-là de façon directe. Donc, c'est un domaine de recherche très, très intéressant où est-ce qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis, on a une belle équipe de recherche ici même à Paris qui travaille là-dessus.
Écoutez, merci beaucoup, Joël Pinault. Merci.
Ça me fait plaisir.
Comme chaque jour, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbeau qui fait le tour de l'actualité scientifique. C'est la chronique avec science.
Comment le satellite Gaïa a-t-il découvert un nouveau trou noir dans notre galaxie? Celui qu'on connaît bien, c'est Sagittarius A étoile, un trou noir supermassif équivalent à 4 millions de fois la masse de notre Soleil. On en a même obtenu une image en mai 2022, un tour de force puisqu'il est situé à 27 000 années-lumière de la Terre, au centre de notre galaxie. Mais c'est presque relativement facile parce qu'on le voit bien. Il accrète de la matière et donc mange beaucoup de ce qui se trouve autour de lui. La matière chauffe et rayonne, ce qui rend le trou noir visible alors que les autres trous noirs, ceux qui ne sont pas gourmands, sont indétectables. C'est pourquoi la découverte qui vient d'être faite est assez étonnante, d'autant que le satellite Gaïa de l'Agence spatiale européenne n'a pas vocation à découvrir de nouveaux trous noirs, mais à cartographier le ciel. Pasquale Panuzzo est ingénieur de recherche CNRS au laboratoire GEPI de l'Observatoire de Paris, responsable adjoint du traitement de l'instrument RVS de Gaïa. Il est le premier auteur de cette étude parue dans Astronomie et Astronomie.
C'est une mission d'astrométrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Astrométrie, c'est le fait de mesurer avec une grande précision la position des étoiles dans le ciel. Ça nous permet de déterminer la distance, en première chose, la distance des étoiles, qui est un paramètre très important, fondamental dans l'astronomie. Parce que, en savant la distance, on peut savoir la luminosité intrinsèque des étoiles et donc finalement les étudier et les comprendre correctement. Il fait une cartographie en 3D de notre galaxie et en plus il mesure les mouvements des étoiles, donc comment les étoiles se baladent dans notre galaxie. Donc ça nous donne vraiment une carte tridimensionnelle et dynamique de notre galaxie.
C'est en fait en regardant une étoile que Gaïa a découvert des nouveaux trous noirs. Et pour le comprendre, il faut savoir quelque chose d'assez contre-intuitif. Les étoiles vivent rarement seules. On connaît notre Soleil comme seule étoile de notre système planétaire, mais ce n'est pas la règle. Les étoiles ont souvent un compagnon, et ça, Gaïa peut le voir dans leur mouvement dans le ciel. Et pour découvrir quelle est la nature de ce couple, il faut procéder par élimination. Le compagnon de l'étoile est-il une étoile à neutrons, une naine jaune, une naine blanche ou une rouge, si ce n'est aucun de ces astres, quand l'étoile semble tourner autour de rien, mais que l'objet est très massif, eh bien, c'est un trou noir. C'est ainsi que Gaïa avait déjà fait la découverte de BH1 et BH2, des petits trous noirs d'origine stellaire, c'est-à-dire le fruit de l'explosion d'une étoile, et en voici un troisième, BH3, mais cette nouvelle étude rapporte qu'il pèse 33 masses solaires, du jamais vu dans notre galaxie.
Les modèles d'évolution des étoiles nous disent que normalement les étoiles de composition similaire au Soleil forment des trous noirs au maximum autour des 10, maximum 20 masses solaires. Et en fait, tous les trous noirs d'origine stellaire qu'on connaît dans notre galaxie, ils ont cette masse, autour des 10, et les maximums c'était 20 masses solaires. Par contre, avec les télescopes d'ondes gravitationnelles, on a trouvé dans des galaxies lointaines des fusions des trous noirs dans lesquels les composantes, les deux trous noirs qui fusionnaient, avaient des masses de 30, 40 jusqu'à 80 masses solaires. Et donc, c'est ça l'importance de la découverte de ces trous noirs, Gaïa BH3, d'avoir finalement un équivalent des trous noirs qu'on voit avec les ondes gravitationnelles dans des galaxies lointaines.
C'est donc le premier trou noir stellaire massif de notre Voie lactée. Selon l'étude de l'étoile compagnon, BH3 serait le fruit de l'effondrement, il y a 12 milliards d'années, d'une étoile massive composée presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. BH3 va à présent servir de laboratoire à portée de télescope pour questionner ces modèles de formation de trous noirs et comprendre où il s'est formé initialement.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini à la réalisation, Olivier Bétard. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.